Sans la politesse, on ne se réunirait que pour se battre. Il faut donc vivre seul ou être poli. Alphonse Karr. Ans d'histoire. Qu'on l'appelle le savoir-vivre, la civilité, la bienséance, les bonnes manières ou la courtoisie, tout le monde sait depuis toujours que sans la politesse, la vie en société serait insupportable. La politesse a donc une histoire et les règles qu'elle impose n'ont jamais cessé de changer. Mais même si on ne mange plus avec ses doigts depuis l'invention de la fourchette, si le baise-main nous paraît aujourd'hui démodé, si on ne vouvoie plus ses parents, ses enfants ou son conjoint, et si on ne demande plus la main de sa promise en gants blancs et en pantalon beurre frais, on apprend toujours qu'il ne faut pas mettre ses coudes sur la table ni ses doigts dans son nez, et que même si on a une furieuse envie de mettre son poing sur la figure de quelqu'un, il faut savoir lui dire bonjour ou merci. Ce sont autant de règles toutes simples qui nous permettent de pouvoir vivre ensemble sans avoir envie de s'entretuer. France Inter, Jean-Armand Ladidi, le 19 juin 1963.
En France, depuis ce matin, il y a quelque chose de changé. Ce quelque chose, c'est la croisade de la politesse et de la bonne humeur qui a commencé donc ce matin, car hier, c'était encore cela.
Et la priorité à droite est cocu.
Tu l'as acheté à la foire de Paris, ton truc.
Et t'as pas conduit chez ta grand-mère.
Ouais, tu l'as vu dans la sûre, t'as bien vu de m'en
dire. On est pas à la campagne, ici, et combien tu l'as payé.
Mais enfin, tout cela, c'était hier. Aujourd'hui, tout est changé. Écoutez plutôt.
Pardon, monsieur. Non, je vous en prie. Vous êtes devant moi.
Pardon, monsieur. Je regrette. Vous étiez engagé après vous.
Ah non, non. Ça, écoutez, je n'en ferai rien.
Je vous respecte. Allez-y, je vous en prie.
Non, mais écoutez, monsieur, je suis tout à fait confus. Je suis gêné. Je vous remercie. Écoutez, alors entendu, je passe.
Frédéric Auvillois, bonjour.
Bonjour.
Ça vous a fait sourire, hein, ce qu'on vient d'entendre. Alors, il faut reconnaître quand même que depuis cette croisade de la politesse, il y a, je crois, 43 ans, il faut reconnaître qu'au volant, les Français n'ont pas beaucoup changé. Peut-être parce qu'aujourd'hui, on a perdu de vue le fait que la politesse, c'est pas seulement une série de règles un peu formelles, parfois même un peu ridicules, mais qu'elle correspond à une nécessité. C'est ce que vous rappelez dans votre histoire de la politesse qui vient de sortir chez Flammarion. C'est vrai que c'est la condition même, dites-vous, de la vie ensemble.
C'est la condition de la vie ensemble, parce que pour vivre ensemble, effectivement, il faut, dans une certaine mesure, mettre les formes. Hein, parce que tout le monde, effectivement, n'est pas de bonne humeur en permanence. Tout le monde n'est pas un ange vis-à-vis de son prochain. C'est le côté, l'homme est un loup pour l'homme. Et ce loup pour l'homme doit, effectivement, apprendre à dominer ses instincts, refouler sa nature crocodilienne, s'il veut vivre avec les autres de manière suffisamment pacifique et harmonieuse.
Polir sa nature, au fond, politesse, ça vient de là.
C'est exactement ça.
Alors, elle était... La politesse, du coup, elle a toujours existé. Et pourtant, votre livre, Frédéric Auvillois, c'est l'histoire de la politesse de 1789 à nos jours. Comme si on était mal élevé, mal poli, sous l'Ancien Régime. C'est un peu le contraire, quand même.
C'est un peu le contraire. En fait, la France est considérée comme le pays le plus poli d'Europe et peut-être du monde dès le XVIIe siècle. Peut-être la grande époque de la politesse, et le XVIIIe siècle sur ce plan est un siècle extraordinaire. On le voit, y compris dans les films récents, le Marie-Antoinette de Sofia Coppola est tout à fait amusant sur ce plan. Ceci dit, il s'agit d'une politesse qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que j'appelle la politesse bourgeoise dans mon livre. Dans la mesure où c'est une politesse, celle du XVIIIe siècle, celle de l'Ancien Régime, qui est une politesse à la fois centralisée, parce qu'il y a une cour et des salons qui donnent le là, finalement, qui expliquent comment il faut faire. Et c'est en même temps une politesse qui est relativement décontractée. Alors qu'au contraire, la politesse d'après la Révolution, la politesse du XIXe siècle et du début du XXe siècle, c'est une politesse qui est finalement décentralisée, il n'y a plus de cour, mais beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus corsetée, plus bourgeoise en un mot.
Il y a aussi autre chose peut-être, c'est que la politesse, c'est pas seulement l'art de vivre ensemble, mais c'est aussi Au XVIIIe siècle, sous l'Ancien Régime, l'art de vivre séparé des autres, elle est réservée à l'aristocratie, elle est une façon pour elle de se distinguer du peuple, hein, qui n'est pas censé connaître les règles de la politesse.
Oui, alors, là, je mettrai un petit bémol sur cette interprétation qu'on connaît bien, dans la mesure où, en définitive, la politesse bourgeoise est assez peu différente sur ce plan de la politesse aristocratique d'Ancien Régime. D'abord parce que la politesse aristocratique concerne aussi les bourgeois sous l'Ancien Régime. D'autre part, parce que au XIXe siècle et au XXe siècle, la politesse reste un moyen de se distinguer, un moyen de se reconnaître, un moyen, par exemple, pour le bourgeois du XIXe siècle, de bien montrer qu'il n'est plus un paysan, qu'il n'est pas un prolétaire, un moyen de rappeler, par conséquent, que lui connaît les usages et qu'il les pratique.
En tout cas, au XVIIIe siècle, c'est quand même un peu le privilège de l'aristocratie, et l'on peut comprendre que la Révolution ait voulu tenter d'abolir la politesse, en même temps qu'elle coupait la tête et même les particules de ceux qui en avaient défini les règles et qu'on n'appelait plus que par leur prénom et leur nom de famille.
Le tribunal, après la déclaration unanime du jury, condamne la dénommée Marie-Antoinette, dite Lorraine d'Autriche, veuve de Louis Capet, à la peine de mort, et ordonne qu'à la demande de l'accusateur public, le présent jugement soit exécuté place de la Révolution.
Antoinette, avez-vous quelque objection à formuler quant à l'application des lois citées par l'accusateur public ?
C'est l'heure, citoyenne.
Excusez-moi, monsieur.
Marie-Antoinette appelant monsieur le bourreau qui allait lui couper la tête en 1793, c'était un peu avec elle la fin de la politesse de l'Ancien Régime, parce qu'avec la Révolution, alors là, il y a un bouleversement complet.
Absolument. Du reste, le seul fait, durant les années dures de la Révolution, d'appeler quelqu'un « monsieur » peut vous conduire à la guillotine. Dans la mesure où toute utilisation des vieux rituels de la politesse, d'Ancien Régime, est considérée comme suspect, comme virtuellement contre-révolutionnaire. Tout ce qui rappelle l'Ancien Régime, finalement, est associé à la monarchie, à l'inégalité, à la distinction, à l'aristocratie, par conséquent. Et il y a des anecdotes assez connues, notamment d'un vieux garçon de café qui, fatigué en fin de journée, s'oublie sur cette question-là, qui appelle l'un de ses clients « monsieur » et qui provoque un véritable scandale, qui manque de l'envoyer en prison et peut-être sur l'échafaud. Tout simplement parce que il a oublié qu'il fallait appeler citoyen. Il
citoyen
n'est pas
ou citoyenne, monsieur ou madame.
Et citoyen, naturellement, le tutoyer et surtout pas le vouvoyer.
Ah oui, alors ça aussi, c'est très important.
C'est ça.
Le vouvoiement disparaît, en tout cas va disparaître quelque temps. Qu'est-ce qu'il avait de si important, le vouvoiement, pour aux yeux des révolutionnaires, Frédéric Rouvillois?
Pour le révolutionnaire, le vouvoiement, c'est la caractéristique absolue et incontestable du passé gothique, de l'aristocratie. En fait, il considère qu'appeler quelqu'un « vous », c'est considérer que ce quelqu'un est plusieurs, autrement dit qu'il vaut plusieurs personnes, qu'il est au-dessus des autres, et que par conséquent, il manifeste par sa seule existence l'inégalité.
Donc on va se tutoyer.
On va se tutoyer, et de façon obligatoire, la loi sanctionne, là encore, ceux qui ne respectent pas cette règle impérative.
Alors tout ça disparaît, ainsi que la cour, elle va réapparaître très vite, ça n'a pas duré trop longtemps. Très longtemps, Napoléon va rétablir la cour impériale, l'étiquette, les titres, les vouvoiements, enfin on se retrouve dans l'Ancien Régime. À ceci près, c'est qu'à partir de lui, pendant tout le XIXe siècle, c'est la bourgeoisie, au fond, qui va définir les critères de la politesse, et même reprendre, au fond, les anciens critères, elle les reprend à son compte. Il y a peu de différence entre la politesse bourgeoise du XIXe et celle de l'Ancien Régime, Frédéric Rouvillois.
Comme je vous disais tout à l'heure, il y a un côté certainement moins détendu, un côté plus sérieux, un côté plus strict. Hein. L'épisode révolutionnaire a créé une sorte de traumatisme culturel extrêmement profond, et pour diverses raisons, ça n'est, la politesse du 19e n'est plus du tout, au fond, celle du 18e. Mais à part ça, effectivement, les bourgeois reprennent l'essentiel de la politesse d'Ancien Régime, du même d'ailleurs qu'ils absorbent, sur un plan sociologique, l'aristocratie. Puisqu'au fond, cette politesse, entre guillemets, bourgeoise, c'est aussi celle de ce qui reste de l'aristocratie et de la noblesse au 19e siècle.
La reprend notamment, par exemple, dans les rapports entre domestique et maître. Le domestique doit dire monsieur au maître, madame, à la femme, et monsieur avec le prénom pour l'enfant, je crois.
Alors justement, sur la question du domestique, c'est un exemple très intéressant de la rupture de la Révolution. En fait, après la Révolution, le rapport entre le maître et le domestique change assez fondamentalement. C'est un rapport qui devient finalement un rapport de droit privé. C'est le rapport entre un salarié et son patron. Et au fond, il n'y a plus cette... Le maître et le domestique se considèrent un petit peu comme étant sur le même plan juridique, à égalité, et on est obligé, contrairement à ce qui se passe sous l'Ancien Régime, où il y avait effectivement une différence qui était admise, si vous voulez. Ils sont à égalité sur un plan juridique. Le maître peut être puni comme son domestique lorsqu'il injurie son serviteur. Et pour cette raison, parce qu'il y a effectivement une sorte d'égalité juridique établie entre les deux, on va surjouer, si je puis dire, les distances, et par exemple, on va inventer quelque chose qui n'existe pas sous l'Ancien Régime, qui est l'utilisation par le domestique de la troisième personne du singulier. C'est-à-dire que le domestique, parlant à son maître, l'appelle, s'adresse à lui, à la troisième personne. Monsieur a-t-il bien dormi, madame a-t-elle bien mangé, etc.
Avec une nuance importante, vous l'avez dit tout à l'heure, la politesse va retrouver ses droits, certes, mais dans d'autres lieux qu'à Versailles, et elle va être défendue par une autre catégorie sociale, la bourgeoisie, à ceci près quand même que cette bourgeoisie ouvre, la politesse n'est plus réservée à une élite, elle est ouverte à tout le monde, de même d'ailleurs que l'ascenseur social peut permettre à n'importe qui de devenir bourgeois. C'est le cas en France, mais c'est aussi le cas en Angleterre.
Que désirez-vous, mademoiselle ?
Oh, bonjour madame, je viens exprès pour causer au professeur.
Puis-je vous demander à quel propos ?
Ah, c'est comme qui dirait affaire personnelle et privée.
Une minute, venez-vous.
Que veut-elle ?
C'est une fille très vulgaire, monsieur, affreusement vulgaire.
A-t-elle un accent particulier ?
Le mot est faible, il est à faire frémir.
Parfait, on va écouter ça. Faites-la entrer, voulez-vous ?
Et voici la jeune fille en question, monsieur.
Bonjour, monsieur, dame.
C'est pour des leçons que je suis venue, et même que j'ai sur moi de quoi les payer recta.
Que désirez-vous, juste, mon enfant ?
Je veux être vendeuse dans un magasin, moi, au lieu de me geler les fesses à vendre des fleurs sur le trottoir. Mais paraît qu'il faut causer autrement que je cause.
Comment vous appelez-vous ?
Elisa Doolittle.
Veuillez vous asseoir, mademoiselle Doolittle.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
I think she's got it.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
By George, she's got it. By George, he's got it. Now once again, where does it rain?
On the plain, on the plain.
And where's that soggy plain?
In Spain, in Spain.
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Bravo!
The rain in Spain stays mainly in the plain.
Et c'est ainsi que mademoiselle Doolittle va devenir My Fair Lady et se débarrasser de son horrible accent cockney et de son vocabulaire grâce au professeur Higgins. C'était vrai en Angleterre, ça pouvait l'être aussi en France, où l'on voit apparaître au 19e siècle une quantité incroyable de traités de savoir-vivre, Frédéric Rouvillois, et les plus grands écrivains s'y mettent.
Alors c'est tout à fait dans le prolongement de ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire que la bourgeoisie ouvre finalement le champ d'application des règles de politesse, tout le monde finalement va s'y mettre, y compris des gens qui n'avaient pas beaucoup d'idées jusqu'alors, et pour permettre finalement cette extension, il y a effectivement une floraison absolument faramineuse de manuels, de traités, de politesse, qui se multiplient de manière invraisemblable. On en compte plusieurs centaines au cours du XIXe siècle. Hein. C'est un genre littéraire à part entière, et un genre littéraire qui est qui foisonne de best-sellers. Hein.
Dumas y met, Balzac écrit un traité de la vie élégante. C'est surtout les femmes qui sont chargées de transmettre les règles de la politesse au XIXe.
Ça, c'est assez drôle, parce que c'est surtout les femmes à partir, on va dire, des années 1850. Avant, il y a beaucoup d'hommes qui les écrivent, mais au fur et à mesure qu'effectivement cette politesse se diffuse, ce sont des femmes, ou du moins des personnes qui signent sous des pseudonymes féminins. Parce qu'on a aussi assez fréquemment ce genre de choses. Des hommes, Monsieur Durand par exemple, qui va signer, non pas Monsieur Durand son trait de politesse, mais qui va le signer par exemple Vicomtesse Durand de La Mardière. Parce que effectivement, il faut si possible que ce soit une femme, et il faut si possible que cette femme soit effectivement membre supposé de l'aristocratie, pour valider en quelque sorte, pour légitimer aux yeux de ses lectrices et de ses lecteurs les préceptes qu'elle énonce.
Oui, il y en a même une qui va se donner un titre de baronne qu'elle n'avait sans doute pas, et alors qui est très très célèbre. Elle a écrit Les Usages du Monde, un livre vendu à 200 000 exemplaires, et elle était très célèbre, c'était la baronne Staff.
Alors oui, la baronne Staff, c'est effectivement l'un des auteurs de best-sellers de la fin du XIXe siècle, qui écrit toute une série de manuels de politesse, expliquant effectivement comment il faut faire pour être une femme chic, comment il faut faire pour être une bonne maîtresse de maison, et pour vivre parfaitement dans le monde. Et donc, elle multiplie de manière invraisemblable, là encore, les éditions de ses innombrables manuels de politesse, manuels de correspondance également, parce qu'elle enseigne aussi aux gens comment il faut écrire correctement, comment on rédige une lettre lorsqu'on écrit au
pape. Ah oui, ça, il y a une quantité de préceptes, on ne peut pas tous vous les citer, mais on ne peut pas tous les citer à l'antenne, il y en a tellement. Notamment, elle insiste beaucoup sur la tenue vestimentaire. Dis-moi comment tu t'habilles et je te dirai qui tu es ou si tu es bien élevé. Ça compte beaucoup,
Ça compte beaucoup, ça a toujours beaucoup compté, effectivement, au 19e. Et là, pour le coup, elle n'est pas du tout la seule à en parler. Et Balzac, vous évoquiez à l'instant, a écrit également, de son côté, de nombreux textes, articles, sur un ton plus ou moins humoristique, autour, par exemple, de la cravate, autour du frac, autour du chapeau, et la manière dont il fallait, par exemple, mettre ses gants, ou à quel moment on pouvait les enlever. Donc, l'aspect vestimentaire compte beaucoup, et il compte beaucoup finalement en rapport avec ce qu'est l'esprit de la politesse. La politesse, c'est finalement s'adapter à son milieu, s'adapter aux gens avec lesquels on est en relation sociale, et par conséquent, il faut s'habiller conformément à ce que souhaitent les gens avec lesquels on est en relation.
Alors c'est les vêtements qui distinguent effectivement les gens bien élevés des gens mal élevés, mais aussi leur manière de se tenir à table.
Oh non, Nathan, non. Ça n'est pas la bonne fourchette, jeune homme.
Oh, pardon, je vais prendre l'autre, j'ai oublié.
Et serait-il possible que cet endoctrinement de votre petite enfance puisse être à l'origine de votre intérêt pour les bonnes manières à table?
Fourchette.
Je vous demande pardon?
Non, c'est la fourchette extérieure qui est la fourchette à salade.
Je suis vraiment navrée. Je n'ai jamais appris ce genre de choses.
C'est pas grave.
Qu'est-ce que c'est bon?
Je vous prie de m'excuser. Je dois vous paraître maniaque.
Non, c'est moi qui m'excuse. J'ai tout à apprendre sur les bonnes manières.
Ne parlez pas avec la bouche pleine.
Depuis ma naissance, j'ai la réputation d'être victime de mon éducation. Je suis esclave de la politesse. Ce n'est pas drôle, je le confesse. Ainsi dans le monde, quand je suis présenté à une vieille coquette ayant le couteau ridé, qui malgré les ruines de son visage me dit de deviner mon âge. Je fais la bouche en derrière d'oiseau et je lui réponds aussitôt. Vous avez certainement un petit peu plus de 18 ans par politesse.
Alors, par politesse, Georges Huss, en 1924. Alors, les règles de politesse sont si nombreuses, Frédéric Rouvillois, qu'on ne va pas les citer toutes. Mais c'est vrai que la table aussi compte au moins autant que le vêtement, la façon de s'y tenir, de ne pas mettre ses coudes sur la table, de ne pas parler en mangeant, on l'a entendu, de faire attention aux couverts qu'on emploie. Alors là, il y a toute une série de listes exhaustives de ce qu'il faut faire et pas faire.
La table est très importante parce que le repas, c'est finalement l'un des moments clés de la vie sociale, en définitive, qu'on soit en famille ou qu'on soit en dehors de sa famille, en public. On passe, notamment au XIXe siècle, beaucoup, beaucoup de temps à table. C'est l'époque des énormes repas, bien connus, qui couvre des menus entiers. Donc on y passe beaucoup de temps et par conséquent il faut avoir à table un comportement qui soit là encore admissible par les autres, qui manifeste à leur égard justement les égards qu'on leur doit, le respect qu'on veut leur.
Oui, mais où sont les égards par exemple dans le choix des couverts? On sait par exemple que depuis Catherine de Médicis au XVIe siècle et l'arrivée de la fourchette, bon, on ne mange plus avec ses doigts. Encore que j'ai appris, Frédéric Ouvillois, en vous lisant, qu'il y avait quand même quelques exceptions. Notamment, on peut manger un certain nombre de choses avec ses doigts, même en fait, au XIXe.
Au XIXe, il y a une évolution qui est assez rapide. Hein. On se détache progressivement du côté détendu de l'Ancien Régime. On va de plus en plus vers une politesse assez stricte, assez rigoureuse. Et le rapport au corps est de plus en plus problématique, en définitive, notamment à table. Au début du XIXe siècle, on considère Brillat Savarin, par exemple, le grand gastronome français, explique que les femmes adorent la friture parce qu'elles peuvent la manger avec les doigts. Si quelqu'un avait osé proférer une phrase de ce type-là 50 ans plus tard, il aurait été considéré comme une sorte de monstre absolu. Donc,
mais vous dites par exemple que sous Louis-Philippe, on peut manger la salade avec ses doigts, par exemple.
Hein. Sous Louis-Philippe, le roi Jérôme, privé, hein, ouais. C'est ça. Le roi Jérôme, par exemple, explique à sa fille, à la princesse Mathilde, que quand il était jeune, il mangeait la salade avec les doigts, et que s'il avait mangé autrement, on lui aurait demandé s'il avait les mains sales. Ouais. C'est assez. Mais par contre, c'est quelque chose qui, là encore, lorsque c'est relaté dans le journal des Goncourt, dans les années 1880, apparaît comme quelque chose de tout à fait frappant. Est bizarre. Hein. Et donc, le rapport au corps est de plus en plus. Il y a une plus en plus grande. Oui. Méfiance de plus en plus grande dans ce rapport au corps. Et par conséquent, on va inventer des tas d'accessoires pour ne pas toucher ce qu'on mange. La seule chose qu'on a le droit de toucher, c'est le pain, finalement.
Alors, le rapport au corps, effectivement, c'est important. D'autant plus qu'il faut absolument éviter d'exprimer bruyamment sa satisfaction à table, comme on le fait dans certains pays, en rotant après un bon repas. Là, évidemment, c'est formellement interdit. Tout bruit, toutes les odeurs, tout ça, c'est prohibé. On est quand même beaucoup plus coincé à cette époque-là qu'on ne l'était dans le passé. J'ai sous les yeux un livre signé par Pierre-Thomas Nicolas Hurtaud, qui était un auteur, je crois, du XVIIIe siècle, qui a écrit « L'art de péter », avec en exergue cette phrase merveilleuse, « Pisser sans péter, c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer ».
Ouais, effectivement, au XIXe siècle, c'est le genre de choses qui est réservé effectivement à ce qu'on appelle l'enfer des bibliothèques ou à des recoins tout à fait cachés. Ça va encore plus loin que le fait de ne pas péter ou de ne pas rôter à table. Par exemple, la dématérialisation, si je puis dire, du repas va jusqu'à interdire de complimenter la maîtresse de maison pour la qualité de son repas. On ne parle pas de ce qu'on mange, en définitive. On n'en parle pas parce qu'il y aurait une sorte d'obscénité, en quelque sorte.
Je ne sais pas de parler, là. Hein.
J'ai à parler, mais on va encore beaucoup plus loin, si vous voulez, que de
visiter le alors il y a aussi toute une série de préceptes pour se saluer en soulevant son chapeau, en se serrant la main. Alors là, c'est assez nouveau, hein, le shake hand, on se serre la main, la poignée de main, ça vient d'Angleterre. C'est comme, je l'ai appris aussi en vous lisant, le baise-main qui nous paraît très démodé, qui vient d'Angleterre et qui ne date en France que du XXe siècle, au début du XXe siècle.
Alors, le baise-main, effectivement, enfin, on ne sait pas très bien d'où il vient. On le repère en Allemagne à l'extrême fin du XIXe siècle, mais ce qui est certain, en revanche, et je crois que c'est un des scoops de mon livre, je crois, c'est qu'il ne s'acclimate en France qu'à l'extrême fin du XIXe siècle, même au début du XXe siècle. À l'époque, il a très peu de règles, d'ailleurs. Hein, et au fond, ce qu'on considère parfois comme étant... l'élément central, le symbole absolu de la politesse bourgeoise française, c'est quelque chose de tout à fait récent qui n'existe pas donc avant le président.
Et puis alors tout ça va disparaître progressivement. Il y a déjà la guerre de 14-18 va déjà faire évoluer les choses en libérant un peu toutes ces contraintes de la politesse qui se simplifient. Et puis alors on voit de plus en plus aujourd'hui se multiplier les actes depuis cette époque, les actes d'incivilité et jusque peut-être à cause tout simplement de la désacralisation, vous le dites, de l'autorité, le refus des hiérarchies et de la discipline. discipline, et notamment à l'école, où on essaye malgré tout de revenir à la bonne vieille discipline d'autrefois, pour éviter que, même dès le jour de la rentrée des classes, et bien pour éviter que l'école devienne un champ de bataille. France Inter, Patrick Roger, le 5 septembre 2006.
Nicolas Sarkozy avait laissé entendre, s'appuyant sur une étude qu'on pouvait repérer dès le plus jeune âge à la maternelle des délinquants potentiels. La discipline est en tout cas l'une des priorités sur le terrain dans certains établissements, et tout se joue dès la rentrée, comme vous allez l'entendre dans ce reportage de Sonia Bourran au collège André Malraux à Asnières, près de Paris.
Quand un professeur arrive le matin, enfin, ou quand vous croisez un adulte, c'est à vous de dire bonjour. C'est pas à l'adulte de vous dire bonjour et d'attendre de votre part une réponse. C'est bien clair ? Donc, ce que l'on a fait ce matin, quand on est arrivé, quand vous êtes rangé par deux dans le rang, quand après vous avez gardé le silence pour venir jusqu'ici, pour moi, c'est de la politesse. C'est de la bonne conduite. Si ça se passe comme ça, vous allez voir que si vous vous comportez bien, vous allez voir que les profs, ils vont être très très bien avec vous, ils vont être très sympas aussi. Par contre, si vous commencez à jouer les petits malins, à en faire un peu à votre tête, on ne va pas passer une bonne année ensemble.
Dans votre livre, Frédéric Rouvillois, vous évoquez un retour de la politesse ou de la discipline, aussi on vient de l'entendre, à l'école, dans le lieu où effectivement la violence s'est multipliée ces dernières années. Est-ce que c'est manifeste? Vous citez notamment, par exemple, un sondage du Figaro qui indiquait en octobre 2003 que les bonnes manières étaient jugées très importantes par 70% des Français.
Oui, la politesse, c'est finalement, de nos jours, pratiquement la valeur la plus consensuelle de toutes.
Ah oui, c'est peut-être la moins partagée aussi.
C'est peut-être la moins partagée, mais si elle est
la moins respectée.
C'est tout le problème, en fait. Hein. C'est peut-être parce que on ne la respecte plus, parce qu'elle manque, qu'on la désire autant, et qu'on a finalement autant conscient de son importance. Il s'agit de quelque chose d'évidemment nécessaire, mais quelque chose qui est peut-être dans nos sociétés de plus en plus difficile à atteindre, parce que, effectivement, les solidarités sociales, les groupes sociaux qui permettaient à cette politesse d'avoir une assise, finalement, sont malheureusement dans un piètre état, à beaucoup d'égards.
Bah, il y a aussi un manque, effectivement, de respect pour les hiérarchies, on ne supporte plus l'autorité. Est-ce que, d'ailleurs, il n'y a pas aussi autre chose, c'est que la politesse est considérée comme quelque chose de parfaitement formel, un peu hypocrite, artificielle. Je me souviens qu'un jour, en parlant de Coluche, qui n'était pas un modèle de politesse, son impresario, Paul Lederman, me disait qu'il était mal élevé, mais il avait la politesse du cœur. Est-ce que ce n'est pas celle-là qui compte en plus, le plus?
C'est celle-là qui compte par derrière, si j'ose dire. Mais si à cette politesse du cœur ne s'ajoute pas la politesse tout court, eh bien, malgré tout, si vous voulez, Coluche est très sympathique, mais s'il n'y avait que des Coluches sur Terre, effectivement, ou en France,
ce
serait quand même assez compliqué à gérer.
Oui. Mais donc, elle a de l'avenir.
Donc, elle a de l'avenir, ou du moins, il faut espérer qu'elle en ait, puisque c'est peut-être l'une des conditions, effectivement, la préservation du lien social et, voilà, et de la culture tout court.
Histoire de la politesse de 1789 à nos jours, c'est le titre donc de votre livre, Frédéric Rouvillois, qui a été publié aux éditions Flammarion. À lire également Galanterie française de Claude Habib aux éditions Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Human Nature de Michel Gondry, disponible en DVD chez Universal. My Fair Lady de George Cukor, un DVD Warner Home Video. Et La Révolution française, les années terribles de Richard Effron aux éditions Ariane Video. Et puis je rappelle que pendant toute la semaine, nous vous proposons un jeu pour gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel, Éphéméris, 1000 ans d'histoire, accompagné d'un CD-ROM. Et pour gagner ce livre et son CD-ROM, il vous suffit de répondre à la question du jour. Qui était président des États-Unis le jour du krach de Wall Street le 24 octobre 1929 ? Calvin Coolidge, Herbert Hoover, Franklin Roosevelt, je répète, Calvin Coolidge, Herbert Hoover ou Franklin Roosevelt. Pour jouer, vous appelez le 3230, 34 centimes la minute et donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Tous ces détails, tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission, vous pouvez aussi les retrouver en composant le 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Ludovic Asselot et Sébastien Royer, documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Comilac.